journal, Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. La plus longue campagne d'entre-deux-tours de l'histoire à la une, elle s'achève aujourd'hui avant la fin des municipales dimanche. Un scrutin qui va faire bouger les lignes, on va le voir avec Yaël Gauze, sur fond d'abstention probablement massive. Infectés au premier tour, ils reviendront tenir les bureaux au second, parole d'assesseur à suivre. Et fin de notre série à Poitiers, où le maire sortant socialiste est menacé par une alliance verte et rouge, on appelle ça l'alliance pastèque. À la une aussi, un labo qui marche et qui supprime des postes, c'est Sanofi, l'armée italienne déployée près de Naples pour faire respecter le reconfinement d'un quartier. Et la réouverture des grands musées parisiens, la culture se déconfine à 8h20.
Avec la présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, Laurence Descartes sera l'invitée du grand entretien de la matinale. Intervenez au 01 45 24 7000, le standard est ouvert, ou sur l'application mobile de France Inter.
Et puis déconfiné aussi l'auditorium de Radio France, 700 spectateurs à distance, hier soir pour le premier concert de l'Orchestre National de France.
France Inter.
Terminer une élection 3 mois et demi après l'avoir commencé. Improbable scénario que ces municipales 2020, dont le dénouement aura donc lieu dimanche dans 5000 communes. Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Florence.
On va avec vous balayer les enjeux de ce second tour de scrutin où chaque voix comptera, d'autant plus Yaël que l'abstention s'annonce de nouveau extrêmement forte.
Oui, parce que les sondeurs sont pessimistes. Participation comprise entre 36 et 40% selon les projections. C'est plus faible qu'au premier tour et surtout, ce serait 25 points de moins qu'il y a 6 ans, d'où l'importance des procurations. Nouveauté dimanche, un électeur pourra voter pour 2 personnes au lieu d'une habituellement.
Alors ce qu'il faut dire aussi à elle, c'est que cette élection, certes locale, va faire bouger les lignes nationales.
Le Havre, ville capitale dimanche soir, Florence. Si Édouard Philippe échoue face au communiste Jean-Paul Lecoq, on change de Premier ministre. S'il gagne, eh bien c'est 50-50. Emmanuel Macron devra trancher et vite, plus de réponses de Normand possible. Des élections locales à enjeu national pour la droite, qui veut reconstituer ses forces pour 2022. Le premier tour a été bon, mais une défaite à Toulouse, Perpignan et encore plus à Marseille compliquerait la donne pour les Républicains. À gauche, on expérimente, laboratoire PS Vert, bonne entente à Paris, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, même si ça dysfonctionne à Lille et à Strasbourg. Le printemps marseillais derrière Michel Rubirola est sans doute l'exemple le plus abouti d'union des gauches. Modèle fragile, durable ou pas pour 2022, ce sera l'une des questions dimanche soir.
Et pour illustrer ces nouvelles alliances, vous restez avec nous, Yaël Gauze, pour illustrer ces nouvelles alliances à gauche, direction Poitiers, dernier épisode de notre série tous les matins. Là-bas, c'est une liste citoyenne rouge et verte qui menace 43 ans de règne socialiste dans une triangulaire avec La République En Marche. Reportage signé Laurence Perron.
La campagne, le socialiste Alain Claës sait faire. À 71 ans, c'est sa 3e comme maire. Il a été conseiller régional, conseiller général et député 20 ans.
Où tu vas en classe ? À Tony Lenné. Il a été tout de suite, il est revenu tout de suite ou vous avez attendu un peu?
C'est le problème là. Tout d'été, je n'ai pas de logement, monsieur le maire. Ça fait 3 ans et demi, j'attends, il n'y a aucune réponse.
Mais Tony Lenné, c'est une bonne école.
Madame n'aura pas de réponse. Le maire est déjà occupé à nous présenter la boulangère qu'il a aidé à s'installer, les problèmes d'insécurité qu'il a réglés.
Ici, les après-midi, il y avait des femmes qui étaient ivres mortes. Avec des gamins.
Un monsieur agacé s'interpose. Lui, c'est le Gérard Collomb du Poitou. Ses adversaires ne vont pas sur ce terrain. Pas la peine. Son faible score au premier tour, 28%. Et son bilan parle d'eux-mêmes, estime le marcheur Anthony Brottier.
Il y a des situations très critiques. Et notamment aux trois cités, la barre Normandie-Niémen, c'est des balcons qui s'effondrent. Donc des fenêtres fermées, c'est des blattes, c'est plus de chauffage. Et c'est pas Anthony Brottier qui le dit. Il y a un rapport de l'Encols, donc l'autorité de contrôle des bailleurs sociaux, qui pointe du doigt la mauvaise gestion.
Mais la vraie surprise ici, ce sont les presque 24% de Léonore Monconduit. L'écologiste de 30 ans talonne le baron socialiste qui l'attaque sur son alliance avec les communistes et la bienveillance du NPA. Elle assume.
Le vert et le rouge ne sont pas opposés. Ok, les arguments qui sont utilisés de type extrême-gauche, dogmatisme, etc. sont complètement excessifs et empêchent d'avoir des arguments de fond sur quel projet voulons-nous pour notre ville demain.
Elle sait aussi qu'il faut mobiliser les abstentionnistes face à une droite battue, plus à l'aise avec les roses qu'avec les pastèques.
Verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur, les pastèques. Et puisqu'on parle de fruits, Yaël Gauze, mauvaise récolte en vue pour le parti présidentiel.
Ben oui, il y a un an, après le bon score des européennes, la REM s'imaginait décrocher plusieurs grandes villes de France. Paris, bien sûr, qui aura finalement coûté 3 ministres à Emmanuel Macron. Dimanche, les espoirs de conquête se comptent sur les doigts d'une main. Et encore, Lons-le-Saunier, Strasbourg en alliance avec la droite, voire Aix-en-Provence, c'est à peu près tout. Le psychodrame lyonnais et le îles Colomb-Vauquier ont fait mal aux marcheurs. On ne s'implante pas localement comme on disrupte la scène nationale. La REM reste d'abord une écurie présidentielle, remarque qui vaut aussi pour la France insoumise et le Rassemblement national. Marine Le Pen, elle aussi, enjambe ce deuxième tour, malgré de bonnes chances de victoire à Perpignan.
Enfin, gel, masque et stylo personnel. Merci Yael Gauss. C'est un nouveau dimanche de vote sous le signe des mesures barrières contre le Covid qui s'annonce après le premier tour du 15 mars. Certains de ceux qui avaient tenu les bureaux de vote étaient tombés malades. Alain Gastal en a rappelé deux à Saint-Égrève dans l'Isère. Ils seront fidèles au poste ce dimanche.
Comme il était le plus jeune assesseur, le 15 mars, Fabien avait accepté les tâches les plus délicates, comme nettoyer les stylos ou encore les rideaux de l'isoloir, touchés par les électeurs. Résultat, maladie du Covid, 6 jours plus tard, après une semaine en réanimation, il n'est encore pas complètement remis.
Mes poumons ont été beaucoup dégradés par les symptômes un peu sévères. Et là, j'ai toujours pas récupéré, d'ailleurs, mes poumons. Mais les autres symptômes sont revenus à la normale, quoi.
Mais à la question « Serez-vous encore assesseur dimanche ?», la réponse fuse.
J'ai été contaminé, que je suis quasiment certain d'être immunisé, bah, il vaut mieux que je sois assesseur moi plutôt que d'autres, hein, clairement. Donc oui, je suis volontaire pour être assesseur, je vais être assesseur toute la journée dimanche.
Fabien sera intraitable sur les règles sanitaires avec ses collègues, il croisera sans doute Sylvie, candidate sur la liste adverse, elle aussi malade après le premier tour, mais tout aussi volontaire pour le second.
Oui, je serai même présidente de bureau de vote, oui. Je me dis qu'en plus, je fais peut-être partie des personnes qui craignent moins maintenant. Donc, et puis, il y a beaucoup besoin de monde. La mairie a eu même du mal à recruter au niveau de chaque groupe politique, en fait.
Et dimanche, les deux listes ont prévu de se retrouver pour fêter la victoire ou la défaite. Mais là encore, ce sera sans embrassade et dans le respect des gestes barrières.
Alain Gastal, comment sauver l'emploi des jeunes en supprimant les charges salariales pour favoriser leur embauche alors qu'on attend un plan pour début juillet? Voilà quelle serait l'idée du gouvernement selon les Échos ce matin. Relocaliser la production de médicaments et investir dans la recherche. Pour parler souveraineté pharmaceutique, Emmanuel Macron avait choisi un site Sanofi. 10 jours plus tard, le groupe français s'apprête à annoncer des centaines de suppressions d'emplois, peut-être 1000 en France, sans départ contraint. Pourtant, le groupe va très bien, selon Pascal Lopez, délégué FO avec Laurent Kramer.
Ces annonces, elles arrivent au pire des moments. Sanofi a versé 4 milliards de dividendes cette année. La direction nous annonce donc un plan de réduction d'économie donc de 2 milliards. Nous redoutons autour de 1000 emplois, suppression d'emplois dans le groupe. Il n'y a pas de problème financier chez Sanofi. Simplement, peut-être que notre entreprise estime qu'être à la 7e place mondiale n'est pas suffisant, mais le prix à payer, c'est des plans sociaux à répétition. Nous, on sort d'un plan social qui se termine le 30 juin, 1200 postes. Là, on recommence pour les mêmes raisons. Donc, on a un plan social à peu près tous les 3 ans. Le problème, c'est que quand on fait ça à répétition, ça provoque ce qu'on a vécu dans un climat délétère. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des salariés qui sont bouleversés, qui ont vécu une tragédie et malheureusement, on vit des drames qu'on vient de traverser.
Autrement plus impacté par la crise, l'aéronautique, alors que l'aéroport d'Orly rouvre ce matin après 3 mois d'arrêt, l'équipementier Daher, dont l'activité dépend essentiellement d'Airbus, annonce la suppression de 1300 postes en CDI, en plus du non-renouvellement de 1400 contrats d'intérimaires.
Et voilà qui ne va pas encourager à voyager, Florence.
La situation ne s'arrange pas aux Amériques, toujours plus de contamination, la proportion n'est pas du tout la même, mais le nombre de cas de Covid augmente aussi en Europe, notamment parce qu'on y teste de plus en plus. L'OMS appelle à la vigilance et l'on reconfine localement en Allemagne, au Portugal ou en Italie, près de Naples, où l'armée a été envoyée en renfort dans un quartier de la ville de Mandragone, bouclé depuis la semaine dernière après la découverte d'un cluster. Certains de ses habitants ont tenté de s'échapper, Bruce de Galzin. Alors le gouverneur de la région a déployé les grands moyens.
On le surnomme le shérif. Vincenzo De Luca, le président de la compagnie, a réclamé l'envoi urgent d'une centaine de soldats pour assurer un contrôle strict de son territoire. Car au nord de Naples, à Mandragone, une cinquantaine de Bulgares ont cherché à fuir leur confinement pour reprendre le travail hier. Avec 700 personnes d'un même quartier, ils sont confinés depuis lundi, depuis que 49 cas positifs au coronavirus ont été identifiés. La plupart des habitants du quartier sont bulgares et travaillent comme saisonniers dans les champs agricoles. Hier, des dizaines de carabiniers et de policiers sont intervenus pour les faire rentrer chez eux. Mais certains manquent à l'appel, ce qui fait craindre aux habitants des autres quartiers une propagation du virus. Il y a quelques semaines déjà, le président De Luca avait menacé d'envoyer les carabiniers avec des lance-flammes dans les quartiers qui ne respectaient pas le confinement. Il a désormais obtenu le renfort de l'armée et il va systématiquement contrôler les saisonniers qui travaillent dans les champs tout l'été. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et l'Espagne surveille aussi 3 foyers de contagion, 250 cas, notamment là aussi chez des travailleurs saisonniers d'Aragon, tandis qu'en Angleterre, la police a dû intervenir sur les plages pour disperser des foules venues se rafraîchir sans respecter les gestes barrières. Et comment lutter contre la chaleur quand on n'a pas la mer? Avec la clim, pardi. Le problème, c'est que les climatiseurs aggravent le problème, parce que pour faire du froid à l'intérieur, il faut rejeter du chaud à l'extérieur. Mais pourra-t-on s'en passer avec le réchauffement climatique dans les années qui viennent? Le CNRS, l'école des ponts ParisTech et Météo France se sont penchés sur la question, Sandy Dauphin, en imaginant la ville de Paris en 2100.
À la fin du siècle, une canicule meurtrière comme en 2003 ne sera plus une exception. Pour rendre ces vagues de chaleur supportables pour les plus vulnérables, la clim est efficace, mais si elle se généralise, elle va réchauffer encore plus la ville de Paris, explique Vincent Viguier, chercheur à l'école des ponts ParisTech, co-auteur de cette étude.
Lorsqu'on met de la climatisation, la chaleur en général est rejetée dans la rue. Alors à Paris, il n'y a pas beaucoup de climatiseurs. Par contre, on a pu simuler ce qui se passerait si jamais la climatisation était utilisée de manière généralisée par les Parisiens. Ça peut aller jusqu'à des augmentations de 3 ou 4 degrés.
Pour lutter contre la fournaise en ville, les solutions sont désormais connues. Végétaliser, changer les revêtements pour réfléchir la chaleur et le soleil, ou mieux isoler les bâtiments. Mais à la fin du siècle, il faudra quand même une part de clim pour supporter les canicules, d'après cette étude.
Si jamais on met en place toutes les mesures que l'on a testées, ça ne permet pas du tout de maintenir un confort thermique à l'intérieur des logements acceptable en termes de santé par les habitants. Et donc que la climatisation, a priori, sera nécessaire pour les canicules à la fin du siècle. En attendant la fin du siècle, pour l'instant, ces autres mesures peuvent se substituer à la climatisation. Donc à un moment, elles vont atteindre leurs limites, mais voilà, on n'en est pas encore là.
Plus on adapte la ville au réchauffement climatique en amont, plus l'usage de la clim sera raisonné et moins gourmand en énergie.
Sandy Dauphin, RAS dans les Ardennes. Les opérations de fouilles dans d'anciennes propriétés de Michel Fourniré ont pris fin hier soir et pas de traces du corps de la petite Estelle Mouzin. L'enquête se poursuit. Un enfant de 5 ans gravement blessé après avoir été renversé par un deux-roues qui faisait du rodéo à Vaux-en-Velin près de Lyon. L'accident a eu lieu avant-hier. Fin mai, Christophe Castaner a confié à 2 députés une mission de réflexion pour mieux lutter contre ces rodéos urbains. En Angleterre, la folie à Liverpool. Hier soir, des centaines de supporters ivre de joie et de bière sans doute devant le stade d'Anfield Road pour fêter le premier titre de champion d'Angleterre de leur club de Liverpool depuis 30 ans. Enfin, revoir l'auditorium de Radio France et surtout redécouvrir son acoustique exceptionnelle après 3 mois de fermeture. Premier concert hier soir à la maison de la radio avec l'Orchestre National de France devant une demi-salle de 700 personnes dont Stéphane Capron.
Ouverture effectuée, me confirmer.
On va vous laisser vous désinfecter les mains, puis sortir votre billet.
Du gel à l'extérieur, la prise de température à l'entrée, rien n'est laissé au hasard pour ce premier concert public. Camille Boffy, la coordinatrice de l'accueil, prend le temps de briefer les hôtesses.
Ayez vraiment les yeux partout, n'hésitez pas à aller voir les gens, mais soyez vraiment pas autoritaires. Soyons cool, tout simplement, ferme, mais cool.
Je vous demandais d'aller tout droit.
Et sous les masques, on devine les sourires des premières spectatrices.
On a été vraiment privés de musique vivante, de spectacle vivant, et vraiment c'est un bonheur de revenir.
On a été frustrés, même si on avait beaucoup d'enregistrements à disposition ou à la télévision et par internet, mais je suis tout à fait contente.
Un concert événement dirigé par le chef François-Xavier Roth.
Ce qui se passe ce soir en France est unique au monde. Même en Allemagne, où je suis très actif, on n'a pas des jauges de cette dimension. Donc là, de faire vraiment une place sur deux, il faut dire que c'est un signal extraordinaire. Et je félicite vraiment Radio France de pouvoir donner accès de nouveau au public dans ces proportions-là. C'est un signal très très fort qui se passe aujourd'hui.
D'autres concerts en public sont prévus début juillet dans le cadre de ce temps retrouvé. Et toutes les places sont à 10 euros.
Et ce soir, on change de style et de salle. Benjamin Biolay en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et sur France Inter à partir de 21h.
Superbe. Merci Florence Paracuelos.